Talmudique. Chers auditeurs, bonjour. Toute l'équipe de Talmudique est heureuse de vous retrouver après 2 mois de vacances où vous avez pu entendre au fil des semaines des rediffusions de quelques émissions qui ont constitué un parcours où se sont tissées philosophie, musique, danse, histoire, mémoire et littérature, un parcours en résonance avec l'actualité que nous traversons, une actualité difficile à de nombreux titres, une actualité qui parfois peut nous faire penser à ces sombres temps qu'évoquait Hannah Arendt dans son recueil « Men in Dark Times », devenu « Vie politique » dans la traduction française. « Sombre temps », une expression que Hannah Arendt emprunte à Bertolt Brecht dans son poème « Ceux qui naîtront après moi » et signifie tous ces temps, toutes ces époques où l'homme s'est retiré de la sphère publique et politique, où il a émigré de la sphère publique vers la sphère purement privée, pour laisser le champ libre à ceux qui gouvernent, perdant ainsi la main sur sa propre histoire et son propre destin, en un mot, sur sa propre humanité. Situation qui n'est pas définitive, car elle peut se réparer grâce aux liens que les hommes construisent entre eux, non pas des liens de fraternité qui seraient de l'ordre de l'appartenance à la même espèce, à la même famille, mais de l'ordre de l'amitié, qui grâce à la parole, grâce au dialogue, à la discussion, voire polémique, crée notre humanité. Ces réflexions constituent un des axes majeurs de la pensée de Hannah Arendt, une pensée qu'elle forgea existentiellement dans son corps, son cœur et son esprit pendant les 8 années qu'elle passa à Paris de 1933 à 1941. Ce sont ces 8 années parisiennes et françaises de la biographie d'Hannah Arendt qui sont au cœur du livre de Marina Touyez intitulé « Paria, Hannah Arendt et la tribu en France » 1933-1941, paru aux éditions de L'Échappée avec une très belle préface de Martine Lebovici. Un livre éblouissant dont l'écriture est un magnifique écho à ce qu'écrivait Hannah Arendt dans sa conférence intitulée « De l'humanité dans les temps sombres ». Je cite « Aucune philosophie, aucune analyse, aucun aphorisme, quelque profond qu'il soit, ne peuvent se comparer en intensité et en plénitude de sens » avec une histoire bien racontée. Marina Touyez, bonjour.
Bonjour.
Marina Touyez, vous êtes diplômée en sciences politiques et vous travaillez depuis 20 ans comme journaliste, pédagogue et conférencière sur les années 1930-1940, ainsi que sur l'histoire du racisme et de l'antisémitisme en France et en Allemagne. Comment en êtes-vous arrivé à ce sujet de recherche plus spécifique sur Hannah Arendt et sa tribu? Un mot que nous allons aussi questionner, bien sûr, l'occasion aussi de rappeler qui est Hannah Arendt et comment en est-elle arrivée à quitter l'Allemagne et à se retrouver à Paris en 1933. Marina Touyez.
Alors le point de départ, c'était pas tellement Hannah Arendt. Le point de départ, c'était plutôt ce qu'on a appelé et catégorisé indésirable. Justement, comme vous le disiez, je travaille depuis mes études en réalité sur la mémoire, plus spécialement de ces années-là, des années 30, 40 et de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah en particulier. Et je travaillais à l'époque en tant que coordinatrice pédagogique au Mémorial de la Shoah, donc vers 2018. Et mon supérieur me demande de travailler sur les indésirables. Et en connaissant bien pourtant cette période, je n'avais pas entendu parler de ces personnes qui étaient réfugiées d'Allemagne et qui ont été mis en camp, mais par la République française en 1939 et en mai 1940. Et j'ai commencé à me plonger dans le sujet, intéressée par le fait qu'il y avait là encore un oubli, comme il y en a beaucoup dans l'histoire française, malheureusement, qui concernait des personnes qui étaient pourtant les premiers résistants à Hitler et les premiers critiques des staliniens, réfugiés d'Allemagne, et qui ont été mis en camp en tant que ressortissants ennemis. En tout cas, c'était le prétexte, et qu'on a appelé dans les textes de loi avant qui vont amener jusqu'à cet internement, indésirables. Et en réalité, mon point de départ, c'était ça, de m'intéresser à cette période de l'histoire française qui est encore assez méconnue. Et je me suis souvenue, mais vaguement souvenue, je n'avais pas une connaissance d'experte de Hannah Arendt, qu'elle était passée à Gurs. J'ai commencé à me plonger dans cette histoire parce qu'en tant que pédagogue, vous voulez toujours incarner une histoire par un personnage, par une personnalité. Et je me suis rendu compte que cette histoire était incroyable, que c'était une grande histoire, de ces histoires qui nous disent beaucoup de choses et longtemps après les avoir lues ou entendues. Et c'était ça mon point de départ. Et à ce moment-là, j'ai découvert l'histoire de Hannah Arendt en France et de ses amis.
Vous avez cité Gurs. Gurs, c'est le nom d'un camp d'internement de ces indésirables. On va y revenir tout à l'heure. Mais qui est Hannah Arendt et comment se retrouve-t-elle à Paris dans ces années-là?
Hannah Arendt, c'est en 1933. Elle arrive en octobre 1933 à Paris. Elle a presque 27 ans. C'est une jeune femme assez singulière, assez talentueuse. Elle, très tôt, elle s'est plongée dans la philosophie, la théologie et dans les langues grecques. Et elle a été élevée dans un certain anticonformisme par sa mère, qui a pu aller jusqu'à demander à ce que sa fille soit excusée pour les cours de grec qui se trouvaient trop tôt le matin. C'est une femme assez singulière et déjà quand même le génie de l'amitié, comme l'appellera Hans Jonas après sa mort, déjà quelqu'un qui a besoin que sa pensée soit en dialogue, qui a besoin de s'entourer et d'être dans une relation d'amitié très forte avec des gens choisis. Elle est mariée quand elle arrive à Paris. Elle est mariée à Günther Stern, qui deviendra Günther Anders, qui est aujourd'hui très célèbre. Elle était pendant ses études dans un positionnement assez éloigné à la politique, mais il y a eu les dernières années avant son arrivée à Paris, qui explique son arrivée à Paris, un glissement vers la politique par le sionisme, par finalement une conviction que les Juifs ont été dupés par l'assimilation en Allemagne particulièrement, mais aussi en France. Et pour elle, les victoires électorales des nazis en Allemagne, ça va être la confirmation de cette dupe qui est délétère pour les Juifs assimilés, qui les amène à se renier eux-mêmes. Et à travers la rencontre et l'amitié avec le porte-parole du courant sioniste en Allemagne, Kurt Blumenfeld, et à travers ses travaux sur une salonnière de la fin du 18e, début 19e, Raël Warnhagen, elle va se convaincre en réalité des méfaits de l'assimilation pour les Juifs en France et particulièrement évidemment en Allemagne. Et c'est comme ça qu'elle va finir par entrer en politique au pire moment, c'est-à-dire au moment où les nazis arrivent au pouvoir, donc en janvier 1933, et au moment de l'incendie du Reichstag, elle va décider, elle, de rester, alors que son mari, Günther Anders, qui est menacé également parce qu'il est proche des communistes, fuit, lui, à Paris en février 1933. Elle décide de rester et de faire acte de résistance pour le courant de l'Union sioniste, même si elle n'y appartient pas, un acte qui consiste en recueillant des preuves de l'antisémitisme dans la société allemande et qui va l'amener à être arrêtée, passer une semaine à être interrogée dans les geôles de la Gestapo à Alexanderplatz. Et à partir de là, elle est libérée par grande chance parce qu'elle arrive à charmer la personne qui, le policier qui l'interroge. Et à partir de là, elle est obligée de fuir. Elle se rend d'abord à Genève, elle y reste quelque temps, plusieurs semaines. Elle est sans doute persuadée, comme nombre d'intellectuels allemands, que Hitler ne va pas rester au pouvoir. Ils sont tous persuadés que la population allemande est trop humaniste, qu'elle ne pourra pas se laisser dominer par les nazis. Mais finalement, ils se rendent bien compte que les nazis s'installent, qu'ils verrouillent la société, qu'ils sont loin d'être déboutée par une résistance allemande qui n'est pas si existante que cela. Et elle finit par se rendre en France, comme beaucoup de réfugiés de cette époque, comme beaucoup de réfugiés juifs et anti-nazis allemands, qui se dirigent vers la France parce qu'on y entend que les secours, ils sont riches, ils sont bien organisés, qu'ils vont être bien accueillis. Là-dessus, ils vont déchanter, c'est ce que je raconte dans le livre. Mais également pour elle, c'est parce que c'est la patrie, la France, des Dreyfusards. L'affaire Dreyfus a eu lieu peu de temps, finalement, auparavant, même pas une trentaine d'années. Elle est encore très présente dans les esprits et notamment dans la communauté juive. On a entendu parler de cet événement, de ces intellectuels français qui ont pris fait et cause pour un juif, Alfred Dreyfus, accusé de trahison. Et donc, il y a cette volonté pour elle de continuer à combattre avec les outils du sionisme de l'époque contre Hitler. C'est elle a identifié ça pour elle, que quand on est attaqué en tant que juif, on doit se défendre en tant que juif. Donc elle, c'est les armes qu'elle va choisir et elle se dirige vers la France pour pouvoir continuer ce combat-là contre Hitler.
Comme l'a souligné Martine Lebovici dans sa préface, votre livre aurait pu s'intituler « Le 10 rue Dombasle ». Il s'agit d'une adresse dans le 15e arrondissement, juste à côté du métro Convention, et presque à l'angle de la rue Vaugirard qui mène en ligne droite jusqu'au jardin du Luxembourg. Hannah Arendt et son deuxième mari, Heinrich Blücher, n'y habitent pas, mais c'est là que se constitue la tribu, comme il la nomme. Alors, qu'est-ce que cette tribu? Qui en sont les membres? Et pourquoi ce terme, Marina Touyez?
Alors oui, cette adresse, évidemment, c'est l'adresse d'un refuge, finalement, dans cette hostilité qu'ils vont trouver tous en France, la difficulté de travailler, donc la difficulté de vivre. En réalité, il va y avoir très vite des lois qui vont être mises en place, qui vont durcir leurs conditions de vie. On est en crise économique, les gouvernements français sont en réalité pas si accueillant qu'espéré, et même il voit la France comme une gare de triage qui est censée trier entre les différents réfugiés, ceux qui ne pèseraient pas sur l'économie, ceux qui pourraient être un atout, et ceux qui, par contre, il faudrait soit réexpulser vers l'Allemagne, soit envoyer vers d'autres pays. Et dans ce contexte-là, leurs conditions de vie deviennent particulièrement difficiles. Il y a une certaine hostilité aussi, la xénophobie et l'antisémitisme augmentent. Tout ça pour dire qu'ils vont trouver dans cet immeuble bâti en 1933, assez moderne, un endroit pour pouvoir se retrouver entre personnes qui se connaissent parfois déjà depuis l'Allemagne. La première personne qui s'y installe, c'est un psychanalyste de génie qui s'appelle Fritz Frenkel et qui était très proche de Walter Benjamin et proche également de Heinrich Blücher, le second mari, comme vous l'avez dit, de Hannah Arendt. Et lui, il s'y installe dès 1934 dans cet immeuble avec sa femme et son fils. Alors, le bâtiment lui-même est muni d'un ascenseur, de téléphone, donc d'un certain confort. Mais surtout, la réelle chance de cet endroit, c'est la concierge, Geneviève Fontaine, qui est elle-même, comme les autres membres de cette tribu qui va se constituer, assez anticonformiste. Il faut savoir que c'est forcément très important le rôle de la concierge dans cette histoire, puisqu'à l'époque, les concierges travaillaient avec la police. Donc, ils étaient chargés de vérifier les papiers, la légalité de leurs locataires, d'y faire régner l'ordre. Et si ça n'était pas le cas, ils faisaient intervenir la police. Donc, il y avait vraiment comme ça une collaboration entre les concierges et la police. Mais la Geneviève Fontaine en question, elle n'est pas décidée à rendre tant de comptes que cela. Et elle va laisser des personnes s'installer qui n'ont pas forcément leurs papiers en règle. Et à l'époque, pour les réfugiés, c'est compliqué. Il y a mille aléas administratifs auxquels ils doivent faire face et qui font que c'est pas toujours pas possible pour eux d'avoir des papiers parfaitement en règle. Donc, ça va faciliter l'installation à cet endroit. Il y avait 25 logements, donc de plusieurs familles ou célibataires réfugiés allemands. Donc, il y a la personnalité formidable de Fritz Frenkel, dont je parle beaucoup. Tous sont assez proches du communiste et plus particulièrement des spartakistes allemands. Fritz Frenkel, il a participé à la révolution spartakiste, donc en 1918, auprès de Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. Il a même fondé le Parti communiste allemand. Et puis, il est ce psychologue de génie qui parvient à guérir surtout de l'addiction ses patients. Et il s'installe là. Et ça va produire finalement l'arrivée de son ami, un petit peu plus tard, Walter Benjamin, au septième étage. À ce moment-là également, à peu près au moment de l'emménagement de Walter Benjamin, on a Arthur Koestler qui emménage également, qui revient de la guerre d'Espagne où il a été traumatisé. Et puis, le dit rue Dombasle est fréquenté, comme vous l'avez dit, par Heinrich Blücher et Hannah Arendt dès leur rencontre en 1936. Et on va avoir là des personnes qui ont en commun d'avoir une acuité politique, une analyse des événements particulièrement intelligente et limpide et clairvoyante, et en même temps des anticonformistes, des libres penseurs, qui va faire aussi qu'ils vont être rapidement au banc de leur famille politique, puisque Hannah Arendt elle-même, avec le courant sioniste, a certaines critiques, même si elle continue à travailler dans des structures sionistes. Et puis surtout, Heinrich Blücher, qui est communiste, Fritz Frenkel, et Erich Cohn-Bendit, qui lui aussi habite à deux pas au Square, Léon Guyot, et qui rendraient très régulièrement visite à ce groupe. Ils vont assister à la mise sous tutelle par les staliniens du Parti communiste et ils vont rapidement se désolidariser des courants communistes et se retrouver orphelins, ce qui pour eux va être très dur. Arthur Koestler, qui faisait partie du Comintern, quitte le Parti communiste également et finalement ils vont se retrouver loin de leur patrie, loin également de leur langue maternelle, entourés d'une hostilité et à contre-courant de leurs familles politiques respectives. Et c'est ce qui va créer ce que Hannah Arendt appellera plus tard la chaleur des peuples parias, qui finalement est une chance pour elle, la chance de l'humanité tout entière, même dans les sombres temps, de pouvoir connaître une fraternité exceptionnelle qui est celle de ceux qui n'ont plus rien, qui n'ont plus rien à perdre et qui sont comme des galériens enchaînés au même banc, pour reprendre les vers de Goethe qu'elle aimait, et qui donc se connaissent vraiment. Et donc, c'est pour ça ce mot de tribu qu'elle a employé, hein. Elle dira dans une lettre que je cite dans le livre, Mesporé aussi, donc en yiddish, le clan, la famille.
Mishpoucha, oui.
Voilà, c'est finalement aussi un petit peu j'espère en tout cas, la lumière de ce livre et peut-être une lumière pour chacun d'entre nous actuellement. Ce livre, c'est quand même l'histoire de multiples trahisons. C'est une tragédie, vraiment, puisqu'on les voit cheminer et être trahis, d'abord par les intellectuels allemands en tant que juifs, hein, Arendt dira un vide s'est formé autour de nous, puis par les juifs français qui ne vont pas les accueillir comme ils l'auraient espéré. Ensuite, par la France elle-même qui les mettra en camp, et puis par la Russie, la patrie du communisme qui va faire le pacte germano-soviétique. Finalement, ils vont connaître une désespérance parce qu'ils sont trahis par leurs amis. Donc, c'est un livre qui est, au fil des pages, je crois, malheureusement, assez tragique. Mais la lumière de ce livre, il me semble, et en tout cas pour moi, c'est cette chaleur des peuples parias qui est aussi la promesse qu'il y a finalement dans le titre et qui évidemment ne s'entend pas tout de suite. Paria, c'est pas seulement ce qu'ils ont vécu, cette mise au ban qu'ils ont vécu. Ça renvoie pas seulement au concept que Hannah Arendt a repris de Bernard Lazare quand elle distingue les parias et les parvenus. C'est aussi porteur d'une promesse, la promesse de cette fraternité exceptionnelle que peuvent connaître les peuples parias, la chaleur des peuples parias, qui va se jouer au 10 rue Dombasle.
Dans l'article sur Lessing, intitulé « De l'humanité dans de sombres temps », elle écrit « Pour les Grecs, l'essence de l'amitié consistait dans le discours. Ils soutenaient que seul un parler ensemble, constant, unissait les citoyens en une polis, en une cité. Le monde, ajoute-t-elle, n'est pas humain pour avoir été fait par des hommes, et il ne devient pas humain parce que la voix humaine y résonne, mais seulement lorsqu'il est devenu objet de dialogue.
Pour Arendt, c'est vrai que c'est toujours très important d'être en dialogue. En Allemagne, elle avait Karl Jaspers, qui était vraiment un vis-à-vis. Ensuite, en France, avec Heinrich Blücher, leur amour repose vraiment sur un dialogue très exigeant. Et on voit dans leur correspondance, quand Hannah Arendt est partie en voyage et que Blücher est à Paris, qu'il y a un dialogue qui peut être rude même, qui n'est pas du tout indulgent, mais c'est pas ce qu'elle cherchait. Elle est en dialogue avec ses amis proches. Peut-être que la condition de ce dialogue, c'est que ses amis là, ou l'homme de sa vie, doivent être eux-mêmes très exigeants dans leur pensée et très libres et lui renvoyer cette exigence. Et c'est ce dont elle a besoin et c'est ce qu'elle trouve effectivement. Et ça va leur permettre d'être très fertiles pendant ces années là en France. Alors cette fertilité intellectuelle, elle est aussi due finalement à l'urgence et à la précarité de leur situation. On voit que Benjamin écrit à Adorno quand il lui son travail sur Baudelaire et sur Paris, que c'était une course contre la guerre. Donc ça, c'était un petit peu plus tard, en 1938, où on voit bien que Hitler n'arrêtera pas ses prétentions territoriales et va pousser l'Europe à la guerre, va faire basculer l'Europe à la guerre. Et Benjamin écrit que l'ambiance est spirituellement irrespirable et qu'elle l'est également en France. Et il écrit dans une urgence contre la barbarie, et contrairement à l'idée qu'on pourrait avoir d'intellectuels, ils n'ont pas besoin d'être dans un repos sacralisé pour pouvoir produire. Au contraire, ils vont d'autant plus là écrire que c'est à la fois pour eux leur façon de tenir, de se nourrir, de se réfugier dans ce qui les tient. On le voit très clairement pour plusieurs d'entre eux. Et en même temps, il y a dans les semaines même, hein, de chaos, de camp, de la drôle de guerre, ils écrivent, même en camp, Benjamin, hein, il va essayer de mettre en place une revue. On verra, hein, que dans tous ces camps-là, d'indésirables qu'ils vont connaître les uns et les autres, ils prennent des cours, ils réfléchissent, ils travaillent. Et donc, c'est à la fois une façon de tenir, mais il y a aussi à la fois cette urgence, parce qu'il y a cette idée que l'Europe est en danger, pas seulement militairement, mais que la barbarie est en train de gagner dans les esprits.
Alles andere hätte gut irgendwie noch einmal gut gemacht werden können, wie in der Politik ja alles irgendwie einmal wieder gut gemacht werden können muss. Dies nicht. Dies hätte nie geschehen dürfen, wie ich immer sage. Nicht? Und damit meine ich nicht die Zahl der Opfer, sondern ich meine die Fabrikation der Leichen und so weiter. Ich brauche mich ja darauf nicht weiter einzulassen. Dieses hätte nicht geschehen dürfen. Da ist irgendetwas passiert, womit wir alle nicht mehr fertig werden.
On est en train d'entendre un extrait de l'interview que Hannah Arendt donna en septembre 1964 à la télévision allemande. Elle est interviewée par Günther Gauss, un journaliste éminent. Non seulement vous mentionnez et reprenez cette interview dans le prologue de votre livre, Marina Touyez, mais vous en faites un exercice littéraire. Vous décrivez cette interview, vous le commentez, vous en faites le récit comme s'il était important que l'oralité et l'image retournent à l'écrit, comme s'il était important que cela fasse livre et récit, une façon peut-être de souligner d'emblée à quel point l'écriture, le livre en général, était important pour Hannah Arendt et tous les intellectuels et les amis de sa tribu, mais aussi d'abord pour vous, Marina Touyez. Comment avez-vous écrit ce livre qui est à la fois un magnifique essai, mais aussi en quelque sorte un exercice romanesque?
C'est parti justement de ce qu'elle dit là, à l'instant de ce qu'on entendait de Hannah Arendt. Cette interview, elle est très importante parce que on la voit vraiment vivante, on la voit touchée. Elle a dit elle-même que quelque chose lui avait échappé pendant cette interview. Elle était elle-même quelqu'un de très vivant, donc forcément, j'avais envie d'avoir une écriture vivante, de donner à voir cette histoire qui, pour moi, m'a, comme je le disais, particulièrement touchée, et je voulais la servir au mieux. Et la servir au mieux, c'était essayer de ne pas en faire un objet intellectuel, mais vraiment un objet de vie, d'être plus dans le conte, même si il fallait que rien, évidemment, ne soit inventé. J'ai été chercher énormément de détails, j'ai lu l'entièreté de sa correspondance, j'ai été chercher le moindre détail dans les archives pour pouvoir donner chair à cette histoire, sans pour autant ne prêter jamais, évidemment, aucune émotion. Je leur ai donné la parole le plus possible, et je trouve que leur parole est très forte, et notamment dans cette interview de Günther Gauss, mais aussi dans les lignes d'Arthur Koestler dans La Lie de la Terre. Et j'ai simplement essayé de donner chair à cette histoire, en réalité, parce que, comme elle le dit, Auschwitz, pour elle, a été le véritable choc, et ça a relégué, finalement, ce qu'elle avait vécu, qui pourtant a été extrêmement dur, ça l'a reléguée au second plan, et elle n'a elle-même du coup que peu parlé de ce qu'elle avait vécu. Et donc, comme cette histoire n'existait pas, qu'elle n'était pas écrite, j'ai voulu l'écrire pour la lire.
Alors, vous avez voulu l'écrire dans des temporalités différentes. Parfois, vous êtes arrêté plus longuement sur tel moment de son histoire. Par exemple, en ce qui concerne le temps de son internement à Gurs, vous prenez le temps de développer cette partie, Marina Touyez.
Oui, évidemment, parce que ça fait partie d'un certain déni français sur l'héritage, une culture concentrationnaire de la France, et sur ce qui s'est jouer à ce moment-là, c'est-à-dire l'humiliation de ces personnes qui demandaient à rejoindre l'armée française pour combattre Hitler et qui ont été enfermées en camp. Donc c'est à la fois important historiquement de s'y appesantir, mais surtout c'est très important pour l'histoire de Hannah Arendt, puisque c'est l'endroit, le moment où l'idée du suicide l'a effleurée. Alors que c'était une personne qui, malgré des moments de mélancolie très réguliers, qui était vraiment habitée par une très grande force de vie. Et pourtant, à Gurs, il s'est joué quelque chose, alors même que effectivement cet internement ne dure que 4 semaines, il s'est joué quelque chose de si terrible que l'idée du suicide l'a effleurée. Et elle parlera bien plus tard dans certaines lettres, quand elle évoquera le suicide, elle évoquera Gurs. Donc j'avais vraiment besoin d'y passer du temps parce que depuis toutes ces années, quand on évoque Hannah Arendt et qu'on évoque Gurs, c'est toujours en éludant, en passant extrêmement vite. Mais il y avait des détails très clairs, comme par exemple l'humiliation quand il fallait monter sur l'espèce de cabane en pilotis qui étaient les latrines, et ces femmes qui tombaient en pleurs avant de pouvoir gravir ces marches parce qu'elles n'en avaient plus la force. Une humiliation à l'œuvre, au-delà des conditions physiques extrêmement dures, qui les a plongées dans un désespoir et qui restait, qui a été une amertume chez les témoins, qui est prégnante et qui est restée très longtemps. Et évidemment, il fallait y passer un peu de temps.
Cette question de l'écriture s'articule avec force avec la question de l'amitié que nous avons évoquée précédemment, par l'intermédiaire d'un personnage dont la présence court au fil des pages de votre livre. Il s'agit de la libraire Adrienne Monnier. Qui est Adrienne Monnier, à propos de laquelle vous écrivez « Sa fidélité à l'égard de ses amis et son impressionnant courage font d'elle un phare dans la tempête » Marina Touyez.
Oui, réellement, Adrienne Monnier, c'est vraiment un personnage lumineux aussi. Elle rejoint la tribu par le biais de Walter Benjamin. Walter Benjamin, il venait régulièrement à Paris avant de devoir s'y réfugier en 1933. Il est amoureux de la capitale française et de ses écrivains. Et il rencontre en 1930 Adrienne Monnier, qui a ouvert la Maison des Amis des Livres, 7 rue de l'Odéon, depuis 1915 déjà. Cette librairie était devenue une institution à Paris. Paris, c'était vraiment la papesse des libraires parisiens, Adrienne Monnier, et elle y avait reçu Apollinaire, Aragon. On y venait comme dans un salon littéraire parce que Adrienne Monnier était passionnée, une grande amoureuse des livres et de la littérature moderne. Et quand ils se rencontrent, il y a comme ça une reconnaissance entre ces personnes qui ont le même âge, qui s'estiment l'un l'autre. Adrienne Monnier va avoir une tendresse, mais qui est d'ailleurs réciproque pour Walter Benjamin, qui est assez touchante et qui va faire finalement qu'elle va être vraiment une aide, un ange pour la tribu et pour Benjamin en particulier. C'est elle qui va réussir à le faire sortir du camp près de Nevers où il se trouve en 1939. Il est déjà malade, cardiaque à ce moment-là, et elle va faire des pieds et des mains pour le sortir de cet endroit. Et ensuite, quand les Allemands envahissent la France, il va y avoir quelques jours où la plupart des membres de la tribu se trouvent en camp ou en fuite, comme Arthur Koestler, qui lui-même a été caché par Adrienne Monnier, et puis qui fuit sous une autre identité. Et à ce moment-là, Benjamin et Adrienne Monnier se trouvent particulièrement tout seuls à Paris, dans des journées d'effondrement, et ils travaillent. Et ils écrivent, et ils discutent, et ils se soutiennent comme ça. Et finalement, c'est une amitié pareille qui va être tellement forte pour Adrienne Monnier qu'à la fin de ses jours, alors même que Benjamin s'est suicidé en septembre 1940, plus de 15 ans plus tard, Adrienne Monnier, sur son lit de mort, à Gisèle Freund, la femme qu'elle aimait, qui lui demandait qui avait été l'intellectuel qui aurait été le plus proche d'elle spirituellement, Adrienne Monnier répondait Walter Benjamin. Étant donné les esprits magnifiques que Adrienne Monnier a côtoyés, fréquentés et avec lesquels elle a vécu, c'est impressionnant de voir la proximité spirituelle, puisque c'est le mot, qu'elle avait avec Walter Benjamin. Et dans mon livre, je donne beaucoup d'extraits de leur correspondance dans ces journées et ces semaines dramatiques où on y lit une grande tendresse. Et on lit notamment les mots de Adrienne Monnier au moment où la France tombe et où les premières mesures antisémites sont prises. Et comme elle a conscience, notamment grâce aux discussions avec Hannah Arendt, de ce qui va s'abattre sur ses amis juifs, elle dit qu'elle pleure dans son journal. Elle dit qu'elle pleure et qu'elle prie le Dieu de ses amis, de les protéger.
On vient de parler de l'amitié, de ce concept clé, fort central chez Hannah Arendt. Elle disait, elle a écrit que l'amitié était la seule valeur qui vaille et qui tienne, Marina Touyez.
Oui, et l'amitié et l'amour également, comme patrie. Il y avait chez Hannah Arendt et chez Heinrich Blücher cette sensation d'être bohème qui est restée, cette sensation d'être sans attache, sans nation réelle, sans réellement de cadre, de repère. Leur lien, leur attache, c'était eux-mêmes, c'était leurs amis et leur amour. Et Heinrich Blücher écrivait à Hannah Arendt en 1950, alors qu'elle était à Paris. Il écrit: « J'ai toujours su et pleinement accepté ce que c'est que de ne pas avoir de chez soi. Et j'ai toujours pu dire: là où je suis, je ne suis pas chez moi. Mais en contrepartie, j'ai su créer ici, et non dans quelque Jérusalem céleste, au beau milieu de ce monde-ci, une patrie éternelle, grâce à toi et aux amis, si bien que je peux dire aussi: là où est un ami, où quelques amis sont réunis avec moi, là est ma patrie, et là où toi tu es, est ma maison. »
Merci Marina Touyez pour cette passionnante conversation et pour votre livre Paria, Hannah Arendt et la tribu en France, 1933-1941. C'est aux éditions de L'Échappée avec une très belle préface de Martine Lebovici. Merci encore Marina Touyez.
Merci à vous.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Ludovic Auger, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous, bonne rentrée radiophonique et à la semaine prochaine.